On a commencé la paracha samedi et en même temps, il faut reconnaître qu'on est loin de l'avoir terminée, vraiment loin. Elle a une telle profondeur, en fait, tout ce qui va concerner les livres de Bereshit, donc de la Genèse, qui marque tout ce qui commence par rapport à tout ce qui sera, nous amène obligatoirement à comprendre le sens de l'histoire et le sens des événements dans l'histoire. Et nous avons vu que, à bien des niveaux, à bien des égards, Dieu a déjà vraiment révélé tout ce qui allait se produire. Abraham, Yitzhak, Jacob, ce n'est pas les seuls, mais principalement. Et on a vu des choses étonnantes, que ces hommes, alors qu'ils sont à des millénaires de nous, de notre époque, de nos technologies, avaient déjà vu, voyaient déjà, savaient. Et que l'Éternel a, en quelque sorte, déjà établi, écrit ce qui allait être. Et en même temps, il est important de relever un certain nombre de choses dans cette paracha qui pourrait constituer une simple lecture comme ça. Et je vais peut-être le répéter ainsi, de dire, mais Yaakov ou Jacob, pour ceux qui préfèrent avoir la traduction, la compréhension, est un être tellement loin de nos problèmes et de nos soucis. Il est tellement loin de notre style moderne de vie, tellement loin des problèmes économiques, tellement loin des problèmes technologiques, qu'on pourrait se demander, mais est-ce que ça vaut le coup encore de se référer à des passages qui sont très anciens et qui pourraient être simplement de l'information, de la documentation, voire de l'enseignement d'histoire aux enfants, et puis que finalement, nous, ce que certains disent en tout cas, nous, on est davantage dans, on peut le dire comme ça, dans le Nouveau Testament, dans la doctrine, dans ce qui établit notre foi, notre orientation avec Yeshua Mashiach, c'est-à-dire Jésus le Messie. Et quelque part, dire, mais toutes ces choses-là, finalement, sont passées. Elles sont terminées. Elles constituent même une autre époque. Et pourtant, sans ces hommes, le Messie n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Et encore moins ce qui est à venir. Et on a vraiment besoin. Alors, je ne peux pas répéter tout ce que nous avons évoqué samedi, qui a été dans un certain créneau, dans une certaine orientation, et qui nous a révélé des profondeurs insoupçonnées, et que, à première vue, dans la lecture, on ne voit pas, et que l'on ne peut pas déceler. Et justement, le secret de Dieu, c'est de révéler l'invisible, c'est de révéler ce que normalement notre intelligence ne peut capter, ce que la raison ne peut capter, et en même temps, ça doit venir de lui. C'est lui qui, en quelque sorte, nous dévoile les temps. Et dans toute l'histoire de Yaakov, même si on ne va pas l'aborder, mais le but principal de toute la paracha Vayehi, c'est « il vécut », c'est de nous démontrer, en quelque sorte, que tout est question des temps de la fin. Comment cet homme, Yaakov, qui avait certainement d'autres soucis, doit-il prendre sur lui toute la compréhension des temps et d'écrire, parce qu'on peut lire ce passage que je vais vous lire tout à l'heure et le mettre dans l'actualité, là, maintenant, aujourd'hui. Et on pourrait dire, mais le livre de la Genèse et le passage qu'on va lire, Bereshit 48, finalement, on aimerait mieux lire Apocalypse ou Paul, on aimerait mieux avoir une étude concernant ces passages qui sont plus évocateurs, ou Matthieu 24, etc., etc. Tous ces chapitres, que tout le monde connaît très très bien d'ailleurs, et pourtant, quand on arrive là, on va lire les passages. C'est Bereshit, donc Genèse, pardon, chapitre 48. Alors, il faut que je voie par rapport à l'hébreu, si la traduction n'est pas décalée. On va lire à partir du verset 10. « Or, les yeux d'Israël, appesantis par la vieillesse, ne pouvaient plus bien voir. Et il fit approcher de lui ses jeunes gens, leur donna des baisers, les pressa dans ses bras. Et Israël dit à Yosef, « je ne comptais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir jusqu'à ta postérité. » Ça, c'est un passage fondamental. Qu'est-ce qu'il a vu ? Yaakov, ce n'est pas les yeux naturels, puisque la vision était mauvaise. Mais il lui dit, Dieu m'a fait voir jusqu'à ta postérité, jusqu'à ton zéra. Et là, on est dans la profondeur du mystère. Qu'est-ce qu'il lui montre dans cette postérité, dans ce zéra ? On continue. Yosef les retira d'entre ses genoux et se prosterna devant lui jusqu'à terre. Puis Yosef les prit tous deux, Ephraïm de la main droite, à la gauche d'Israël, et Menaché de la main gauche, à droite d'Israël, et il les fit avancer vers lui. Israël, et il n'est pas dit Yaakov. Est-ce une erreur? Ah, donc ça a un sens, ça a une signification. Il n'est pas constitué, Israël. Tu vas voir. Toujours, même dans les prophètes et dans les prophéties, on voit souvent Yaakov et ensuite le nom d'Israël qui ressort. Et on est surpris de voir l'intensité de la révélation qui est donnée et l'importance qui est donnée notamment à l'utilisation des noms. Israël étendit sa main droite, l'imposa sur la main d'Éphraïm qui était le plus jeune, et mit sa main gauche sur la tête de Ménaché. Il croisa ses mains, quoique Ménaché fût l'aîné. Et là, il y a un mystère encore. Jamais, jamais on ne bénit les bras croisés. Jamais. Mais elle est bavarde ce soir, Lydia. C'est pas tout à fait faux, mais c'est assez unique. Nulle part ailleurs, vous ne verrez quelqu'un croiser les mains. Et on peut dire que Israël, non pas Yaakov, mais Israël donne un sens à cette croisée, à ses bras croisés. C'est qu'il ne reconnaît pas le droit d'aînesse de Ménaché. Alors on continue. Il bénit Yosef. Alors là encore pire. Il impose les mains aux deux, mais c'est Yosef qu'il bénit. Puis il dit que la divinité dont mes pères Abraham et Yitzhak ont suivi les voies, que la divinité qui a veillé sur moi depuis ma naissance jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces jeunes gens. Puisse-t-il perpétuer mon nom et le nom de mes pères Abraham et Yitzhak? Puisse-t-il multiplier à l'infini au milieu de ta contrée? Et Yosef remarqua que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il souleva la main de son père pour la faire passer de la tête d'Éphraïm sur la tête de Ménaché. Et il dit à son père, « Pas ainsi, mon père, puisque celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Son père s'y refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. » Ah. Et lui aussi sera grand, mais son jeune frère sera plus grand que lui. » Écoutez. Et sa postérité, son zéra, formera plusieurs nations. Il les bénit alors et il dit, Israël te nommera dans ses bénédictions en disant « Dieu te fasse devenir comme Éphraïm et Ménaché. » Il plaça ainsi Éphraïm avant Ménaché. Et Israël dit à Yosef « Voici, je vais mourir. Dieu sera avec vous et il vous ramènera au pays de vos aïeux. Or, je te promets une portion supérieure à celle de tes frères, portion conquise sur l'Amoréen, à l'aide de mon épée et de mon arc. » Amen. Alors ça, c'est un vrai mystère que l'on doit là relever. Dans ce passage, Israël non seulement, et non Jacob, Israël inverse les mains. Et d'un autre côté, on voit que Yosef est attentif à ce qui est en train de se passer, et il est en train de, en quelque sorte, presque de manquer de respect, puisqu'il dit à son père, non, pas ainsi. Comme si, écoute, tu ne vois pas très bien, ou tu n'as pas très bien compris, ou peut-être ça t'a échappé. Et Yaakov dit bien, je le sais. Et il dit, je le sais, mon fils. Je sais très bien ce que je fais. Et je sais dans quel but je le fais. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, l'anomalie que l'on peut relever dans le texte, c'est que normalement, quand on bénit quelqu'un, on ne bénit pas la personne qui est à côté. On bénit celle qu'on touche, celle avec qui on transmet, avec celle avec qui on communique. Mais certainement pas la personne qui se tient ou devant, ou derrière, ou à droite, ou à gauche. Et là, on voit cette anomalie, c'est que Israël va bénir d'abord le père avant de bénir les enfants. Il bénit Yosef. Et au verset 18 et 19, nous avons vu que sa postérité remplira les nations. En fait, cette bénédiction, ce n'est pas simplement que tu réussisses dans ta vie personnelle. Ce qui est le grand message d'aujourd'hui, c'est comment réussir, c'est comment arriver, c'est comment survivre, c'est comment finalement établir quelque chose, c'est réussir en quelque sorte sa vie dans ce présent, dans cette existence, puis que quelque part, la suite ne nous intéresse pas. La suite, ce n'est pas notre problème. Ce qui va arriver après notre mort, ou 50 ans, ou 100 ans, ou 200 ans après notre mort, je doute vraiment, profondément, que quelqu'un soit intéressé par les 200 ans qui viennent. Non ? Je peux l'admettre, mais quand même, vous vous imaginez que Israël est sur le point de mourir, de quitter l'existence. Et d'un autre côté, il dit, mais voilà, tout ce qui arrivera, c'est que là, il y aura beaucoup de nations. Alors on va aller un peu plus loin quand même. C'est que Yaakov, qui là, utilise son nom du combat, son nom du futur, le nom de l'accomplissement, pas le nom de son passé, pas le nom d'une identité qui n'existe plus aux yeux de Dieu, mais de cette identité qui lui a été donnée au gué de Yabok. Hein, vous connaissez tous le fameux combat, on en a beaucoup parlé. Et donc, il est en train de dire à Yosef qu'Éphraïm n'auront pas dans le futur le même rôle à jouer. Alors, je vais poser peut-être une question. Parce que vous pouvez calculer le nombre de prophéties chez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous les autres, et vous allez voir que le nom d'Éphraïm est énormément mentionné. Et que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Éphraïm joue un rôle si important dans toutes ces prophéties et qui touche notre actualité. Et en même temps, on pourrait dire, mais voilà, c'est anodin, c'est quelque chose qui est passager, qui est temporaire. Mais non, on voit bien que ce que Yaakov, dans le nom d'Israël, est en train de faire, est quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, de merveilleux, et qui dépasse complètement notre entendement. Il dit, ils n'auront pas le même rôle à jouer. Ménaché est une âme. Il dit, Ménaché, ce n'est pas simplement un homme, c'est une âme, c'est un être vivant. Et à partir de là, quand on dit dans l'hébreu ancien, antique, quand on parle de l'âme, on peut parler de la personne, mais aussi du peuple. Âme, c'est peuple. Et on dit les âmes. Les âmes, ça veut dire peuple. Il sera pas simplement une personne avec une descendance, une continuité, une dynastie, des gens qui vont s'enrichir, peu importe, mais il va devenir un peuple. Il deviendra, si on va plus loin, encore dans la compréhension du texte, il deviendra un seul peuple. Ménaché ne deviendra pas des peuples, un seul peuple. Alors qu'Éphraïm est appelé dans le texte biblique, en hébreu, il est goïm. Il n'est pas goï, il est goïm. Il est les peuples. Il représente les peuples. Il est au pluriel. Et il veut dire que dans son âme, dans son identité, dans ce qui est en train de se faire, dans cette bénédiction, dans ce qui est en train de se produire, eh bien, il y a beaucoup de peuples, beaucoup d'âmes. Alors, on en vient, ça peut vous intéresser, on en vient à quelque chose aussi où j'ai volontairement voulu prendre cette orientation, c'est que il y a une chose qui a été passablement oubliée aujourd'hui, c'est la bénédiction des pères sur les fils. Dans une famille, qui bénit ? Le pasteur. C'est le pasteur qui a le rôle de bénédiction aujourd'hui. Jamais c'est écrit dans la Bible, nulle part. Jamais il est écrit, c'est le pasteur qui a toute autorité pour bénir et qui délivre et qui fait tout. Et ça n'existe pas. Et on a confondu, on a aménagé un certain nombre de choses et on a déresponsabilisé les pères dans le rôle qu'ils ont à jouer dans leur famille. Pas simplement dans la famille des autres, mais dans leur famille. Et c'est vrai que c'est une des choses qui est, en règle générale, pas traitée et qui n'est pas toujours comprise. Et là, nous voyons bien que les patriarches, c'est pas les seuls, mais on va prendre les patriarches, eh bien, ont toujours transmis, béni, en tant que père. Pas simplement en tant qu'instrument dans les mains de Dieu pour le plan de Dieu. Ils ont béni d'abord en tant que père. Et cette bénédiction des pères est plus importante que la bénédiction de votre pasteur. Beaucoup plus. Elle a une valeur inestimable. Parce qu'elle ouvre quelque chose. Alors, sur quoi je vais m'appuyer ? Et regardez, lorsque on parle en règle générale d'Israël, de ses pratiques, de ses coutumes, de ses habitudes, il y a un tas de choses qui ne sont pas comprises parce qu'on les relègue tout simplement au plan un peu malheureux, un peu rapide, de loi, hein, pratique de la loi. On tombe dans la loi, on fait ça, on tombe dans la loi. Mais derrière, il y a tout le sens. Dieu ne donne jamais rien sans qu'il y ait un sens, une réalité visible et cachée, et qu'il veut révéler. Alors, regardez, je vais essayer de l'amener dans, comme on recroche les wagons, hein, de la manière la plus compréhensible possible, la plus facile et la plus accessible. Là, il n'est pas question des mamans. Il est question des pères avec les fils, uniquement. Et que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans la société moderne, est totalement perdu. Qui fait l'éducation des enfants ? L'école. Les copains, les autres. Et quelque part, le père n'a plus, c'est difficile à dire, hein, mais il n'a presque plus son rôle à jouer. Il est comme un objet, tiens, qu'est-ce que tu veux mon fils, occupe-toi de ton fils, va le promener, joue avec. On a tellement modifié que finalement, il y a quelque chose qui s'est perdu. Et si je dis cela, c'est parce que on connaît très mal l'âme d'Israël. La vie d'Israël, la vie des familles juives, même jusqu'à aujourd'hui, va tout basé sur le fait de l'implication de Dieu dans la famille. Et en même temps, elle va véritablement vivre en fonction de ce qu'elle a reçu en héritage de la part de l'Éternel. Alors comment ça se traduit? Je sais que je prends un peu de raccourci, mais on est un peu obligé. Parce qu'on va aller dans des choses encore plus profondes. Quand nous arrivons dans les rêves Shabbat, quelle est la prière de bénédiction que chaque père fait à ses fils? Alors, oui, après, mais ça c'est après, mais la bénédiction des pères aux fils. Vous avez vu, c'est la prière de Yaakov, d'Israël. Il est dit, lors de notre rêve Shabbat, quand les pères, dans le cadre de cette rencontre du temps qui s'arrête, de la présence de Dieu, de vivre Dieu dans la présence familiale, et que là, on est dans un autre cadre, il va faire la même bénédiction. Regardez, des millénaires plus tard, elle est chaque vendredi soir faite. Tous les vendredis soirs, chaque fin de semaine, c'est-à-dire chaque fois que nous allons rentrer dans ce qui est nouveau, chaque fois que nous allons rentrer dans le futur, chaque fois que nous allons rentrer dans un nouveau temps de Dieu, chaque fois que nous allons rentrer dans une autre dimension de vie, avant, c'est comme une semaine qui meurt, hein, l'Erev Shabbat, la fin du Shabbat. Pas la fin du Shabbat, pas l'Avdala, mais je veux dire la fin de la semaine. Et Shabbat devient un jour nouveau. Et quand on commence à comprendre et à réaliser ça, on se dit, mais il donne le Père, comme je l'ai fait, comme la plupart peuvent le faire, il y a la bénédiction pour les filles aussi. Hein. Mais dans ce cas-là, nous disons que l'Éternel te bénisse comme Éphraïm et Manaché. Nous faisons porter sur nos fils la bénédiction à deux enfants qui théoriquement, regardez bien le non-sens, qui va devenir tout à fait limpide. Ces deux enfants que Israël n'a jamais élevés, ces deux enfants que Yaakov, Israël n'a jamais connu, qu'il n'a jamais chouchouté, dont il n'a jamais eu la responsabilité, devient la prière de bénédiction des pères dans les maisons. Ça aurait pu être celle de Réhouven, ça aurait pu être celle de Yehuda, ça aurait pu être celle de n'importe lequel des enfants. Il y en avait 11. Et ils avaient des enfants. Ça aurait pu être n'importe lequel des petits-enfants, non? Il va s'arrêter sur Éphraïm Manaché. Et ce que nous disons, en quelque sorte, c'est la même chose, car dans nos fils, il y a un peuple, une continuité ou des peuples, car de nous sortent le futur. Ce que nous mettons au monde va amener, et la bénédiction de Dieu, c'est qu'elle touche le futur, elle est en rapport avec l'autre niveau, l'autre dimension de l'histoire. Notre histoire s'achève, et eux, ils la prolongent, ils la continuent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un peuple ou des peuples qui est toujours lié, il faut bien le garder à l'esprit, non pas quelque chose qui va s'arrêter sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, la durée de vie de ses enfants, même 100 ans. C'est plus loin que ça. La descendance. Tout repose maintenant sur la compréhension spirituelle de nos fils. Les pères doivent avoir un niveau spirituel élevé pour bénir. Et ça veut dire que ça rejoint également un peu, est-ce que Paul et Yeshua et tous ceux qui étaient juifs, pratiquaient. Il ne faut pas penser qu'ils avaient une autre pratique et qu'ils faisaient n'importe quoi, n'importe comment, en disant n'importe quel type de parole quand ils bénissaient. Ils avaient des paroles qui étaient clés et qui étaient parfois écrites, et souvent on l'oublie parce qu'on n'a pas toujours les sources dans les énoncés. Mais il faut savoir que Yeshua Mashiach a vécu ça, et que les autres l'ont vécu, et que derrière, il y a quelque chose de plus élevé qui va arriver. Alors qu'est-ce que je veux dire ? C'est que les enfants vont recevoir aussi en fonction de la compréhension du futur dans le plan de Dieu des pères. Et qu'à un moment donné, quand nous bénissons quelqu'un, il faut la compréhension de la bénédiction. Quand je l'ai vu, vous l'avez vécu certainement, beaucoup l'ont, en tout cas, à mon avis, expérimenté. Des fois, on bénit très rapidement. Que Dieu te bénisse, et puis voilà, on passe à l'autre. Vous savez, des espèces de chaînes comme ça, et on passe de l'un à l'autre, sans avoir la compréhension de ce que sera le futur de cette personne. La prolongation dans le plan de Dieu. La manière dont Dieu va orienter ou réorienter sa vie. La manière dont on va lui communiquer cette dimension qui vient d'en haut. Et pas seulement essayer de soulager un instant, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, un passage difficile de sa vie. La bénédiction n'est pas faite pour ça. La bracha, ce n'est pas simplement une prière. Une bénédiction, une bracha, c'est une bénédiction spirituelle. C'est une transmission. Et donc, cela veut dire que Yaakov seul, devenant Israël, avec tout le chemin parcouru dans sa souffrance, dans ses combats, dans ses interrogations, dans ses conflits familiaux, dans toutes ces tristesses, n'oublions pas que nous avons relevé il n'y a pas longtemps que l'annonce la plus dure et je dirais l'épreuve la plus dure dans la vie de Yaakov devenu Israël a été quand on lui a dit « Ton fils, celui que tu aimes, Yosef, est mort et que tu ne le reverras jamais. Il est parti, il ne revient pas. » Et que toute la vie de Yosef et qu'il n'a même pas pu faire les deuils parce qu'il n'y avait pas décor. On lui a ramené simplement une tunique imbibée de sang. Et pendant toutes ces années, eh bien, Yosef, le chagrin l'a envahi. Il n'a jamais été consolé de cet épisode, de cet événement dans sa vie. Oui, Yaakov devenu Israël. Il n'a jamais été consolé. Jamais. Et la consolation qu'il a, c'est ce moment-là qu'il vit. Et dans ce moment-là, il pourrait dire, eh bien, on va manger les couscous, on va faire la kémia, et on va prendre l'apéro, on va faire la fête familiale, et on va profiter, c'est les derniers moments de la vie, c'est des moments de bonheur que je voudrais récupérer, rattraper, que je n'ai pas pu avoir. Et on voit qu'il prend une autre dimension. Il ne s'intéresse pas à tout ça. Et il bénit. Et il bénit. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Dans un premier temps, je crois qu'il est important, fondamental, pour chacun de nous de comprendre le rôle familial dans le plan de Dieu. Et oui, ce n'est pas simplement lit ta Bible et prie chaque jour et puis amène Alléluia. Je veux dire, si on est rentré dans la superstition que la lecture de la Bible est 15 minutes de prière par jour, va être le gage d'une protection totale. Il faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Il faut aller plus loin dans la réflexion et l'application. Une famille juive ne prie pas 15 minutes par jour, elle prie des heures par jour. Et oui. Elle a tout le plan des prières de la journée. Et que derrière se déroule constamment la relation avec Dieu qui, théoriquement, ce temps de vie avec Dieu ne doit pas être interrompu. Celui qui interrompt la prière rompt, en quelque sorte, sa relation avec Dieu, le présent de Dieu, la présence même de sa vie avec Dieu. Donc ça, c'est la profondeur hébraïque. Et si on veut aller encore plus loin que ça, on pourrait dire, mais à partir de quand Dieu est-il absent de ma journée ? Ou Dieu est-il présent dans mon quotidien ? Et s'il est présent dans mon quotidien, ce n'est pas simplement une idée forgées sur simplement des convictions. C'est qu'il y a quelque chose qui me connecte à lui. Et tefila, en hébreu, qui vient de Tophel, nous amène à comprendre qu'il nous faut être connecté et non déconnecté, car on doit se reconnecter. Chaque interruption marque un temps où il y a une absence dans le temps. Une absence dans le temps de Dieu, une absence dans le temps de notre vie. Et chaque fois que je me reconnecte avec l'éternité, avec toute cette dimension qui prend un sens. Chaque fois que le temps est pris dans plein d'autres choses, vous savez, il y a une chose qui me frappe beaucoup aujourd'hui, et de plus en plus je crois que ça va se répandre, c'est toute cette technologie qui n'est pas obligatoirement mauvaise, mais qui à un moment donné, on va l'appeler bouffe-temps. Elle bouffe le temps. Vous avez des gens qui passent des heures et des heures. Personne passait autant d'heures que ça dans un ordinateur. Aujourd'hui, c'est des heures, les emails, il faut répondre à tout le monde, il faut da 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 da. Et on surfe sur Internet, et on cherche ça, et on fait ça. Et après, il y a la télévision, et après, il faut se détendre, on a eu une journée difficile. Et puis après, il y a ça. Tout est fait pour nous déconnecter. Mais nous connecter à quoi? Car si on est déconnecté de Dieu, il faut savoir avec quoi on se connecte parallèlement. Et si on est connecté à quelque chose qui fait que le temps s'évade et que nous ne vivons plus, eh bien, peu à peu, il va se produire un certain nombre de choses, c'est qu'on n'aura plus, alors, je vais le formuler comme ça, on n'aura plus cette joie de la présence de Dieu en soi. Elle est comme perdue. Parce que notre vraie joie, c'est sa présence. Notre vraie joie, c'est de vivre dans sa présence. Et quand on sort de sa présence, on perd. Parce qu'on se connecte à ce qui donne du souci, à ce qui nous déconnecte, ce qui peut donner de la tristesse, nous remplir l'esprit de plein de choses mauvaises et aussi les soucis. Quand on connecte avec Dieu, quand on reste connecté, ça veut dire qu'on est connecté par la pensée, par le cœur, par tout un tas de choses. Et ça veut dire qu'on peut faire plein de choses à côté sans être déconnecté. Mais quand on est déconnecté, c'est que l'hébreu va loin dans ce cas-là parce qu'il dit « tu ne penses même plus ». Tu ne penses pas à Dieu, il y a tellement de choses. Tu penses à ce que tu vas faire ce soir, à ta sortie, aux invités. Et il y a des absences. Alors quand on veut aller plus loin, parce que nous devons comprendre que tout a un sens dans notre vie, dans notre propre histoire, car nous sommes le fruit d'une histoire. On n'est pas simplement parachuté comme ça, on n'est pas là simplement pour dire « ben voilà, je m'appelle un tel et je fais tel travail et avoir une identité sociale », c'est pas ça le but. On a une identité de l'éternité. On a une identité dans l'éternité aussi. Et comprendre cette identité dans l'éternité fait que les choses sont modifiées. Et quand on appartient à Yeshua, à Mashiach, alors à ce moment-là, ça nous propulse encore plus loin. Ça nous amène encore dans une dimension plus profonde. Parce que nous disons que nous ne vivons pas simplement pour mourir dans la matérialité dans laquelle nous sommes nés, mais que nous allons vivre dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un planeur. Vous savez, il y en a, des fois, on aurait envie de leur dire, arrête d'avoir l'ivresse des hauteurs, hein, reviens sur terre. Alors, quand un père bénit ses enfants, c'est que lui-même, il a une application, une vie, une compréhension de son rôle de père dans son rôle de famille. Ce que l'on constate, ce que l'on peut constater aussi au travers des enfants, ce que l'on peut voir au travers de beaucoup de choses, c'est que très souvent, les familles ne vivent pas ce qu'elles disent professer. Et il n'y a même pas la présence de Dieu, c'est de la dispute. Vous voyez, quand la présence de Dieu est ôtée, il y a plein de choses qui prennent une place et qui envahissent le couple, premièrement, qui éloigne le couple, qui peut amener beaucoup d'autres travers, éloigne les pères et les mères des enfants, ne s'occupe plus de leurs enfants sur le plan de l'éducation du ciel, et ça donne tout un tas de conflits. Ça donne beaucoup, beaucoup de douleurs, beaucoup de disputes, beaucoup de cris, beaucoup de tiraillements, parce qu'il y a des accords constants. Et que quand le père reprend son rôle dans la famille et qu'il va bénir, alors à ce moment-là, il prend à cœur son rôle réel sur le plan spirituel. Et quand il commence ce rôle, eh bien, tout s'harmonise et tout s'organise. Et tout se développe dans un sens avec une continuité dans la présence de Dieu. Et ça change tout. Un foyer est transformé quand il vit Shabbat. Parce qu'à Shabbat, tu ne peux pas vivre ailleurs que dans la présence de Dieu. J'allais dire obligé. Alors, quand on est dans l'insouciance, quand les priorités par rapport à Shabbat sont diverses, eh bien, nous éloignons le temps de la présence de Dieu, qui fait que chaque fois, nous la cherchons, cette présence. Et ce que j'ai pu analyser, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu comprendre en l'espace de 30 ans quand même, c'est que dans mon souvenir, en parlant avec beaucoup de gens, voyant beaucoup de choses dans diverses assemblées, sans aucune critique d'ailleurs, c'est les gens recherchent toujours quelque chose. Ils recherchent toujours la bénédiction, recherchent Dieu, la présence de Dieu. Pourquoi tu viens là? Ah ben parce que Dieu va me bénir. Pourquoi tu vas là? Ah ben parce que, voilà, dans la louange, la présence de Dieu, parce que, voilà. Mais, quelque part, on se dit, mais est-ce que Dieu a résumé son nom, sa présence, seulement dans une des manifestations hebdomadaires? Ou est-ce qu'il a donné quelque chose de plus que ça? Et toutes ces choses vont commencer à prendre un relief. Alors, on va essayer de comprendre maintenant l'importance de la bénédiction des pères à ses fils. On a lu dans le verset 21 et 22 qu'il donne à ses fils et il donne Sichem. Et Sichem, c'est Naplouse actuelle. C'est la Naplouse d'aujourd'hui. Lieu actuellement chaud. Et c'était également là, regardez bien, est-ce que Yaakov, devenu Israël, va donner un lieu géographique? Je ne parle pas d'un lieu spirituel, mais un lieu géographique par hasard. Est-ce que finalement, ce que Dieu avait déjà donné à Abraham, Yitzhak, Yaakov, n'était pas suffisant, constituait la base même de toutes les promesses. Pourquoi, lorsqu'il fait la bénédiction des enfants, il va en rajouter et rajouter une contrée qui va devenir Sichem? Et Sichem, ça doit vous rappeler quelque chose. Oui, mais Yeshua avec la Samaritaine. C'est un lieu. Est-ce que Yeshua va dans Sichem alors qu'il n'a pas le droit d'aller dans Sichem? Il n'y a pas de contact avec les Samaritains. Pourquoi va-t-il là-bas? Et là, il y a toute une discussion qui va s'engager en disant, nous, nous adorons là et vous, vous adorez là-bas. Et Yeshua Mashiach, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, nous, ce n'est pas le lieu. C'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, il y en a qui disent ça un petit peu rapidement. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il va donner Sichem. Et Sichem a été le lieu, l'endroit où Yosef a été vendu. C'est comme un rachat. C'est comme un rachat. Et il dit là où ma vie, moi, celle d'Israël, Yaakov, s'est arrêtée. Parce que C'est dans cet endroit que malheureusement la séparation entre le Père et le Fils a eu lieu. Et quand on fait l'analogie par rapport au Messie, Yeshua, qui va retourner lui-même à Sichem et qui va aller dans un endroit où, quelque part, aucun juif n'allait. Aucun juif. Et il apporte cette dimension extraordinaire de la bonne nouvelle. Mais quand on commence à comprendre, c'est qu'il a pris, quand il a dit, quand on a lu, hein, il a pris à l'Amoréen par l'arc. Hein? Il a pris à l'Amoréen par l'arc et l'épée. Alors, dans l'hébreu, quand on circule un peu et qu'on analyse, on dit « j'ai pris par la sagesse et par la prière à l'Amoréen, à l'étranger, ce qui doit te revenir dans ton futur avec Dieu. » Et qu'il y a des fois une manière de combattre qui n'est pas toujours physique, qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas purement émotionnelle, qui n'est pas simplement un combat même d'idées, d'affrontement doctrinal, de conviction religieuse, mais qui va bien plus loin que ça. Et que très souvent, j'entends beaucoup parler du combat spirituel, j'entends beaucoup de choses là-dessus, mais je me dis, comment combattons un ennemi? Et quelle est la réalité derrière, indépendamment d'une mise en scène, indépendamment d'une stimulation psychique, indépendamment d'orientation bien animée, bien ficelée? Le vrai combat, Yaakov, devenu Israël, nous l'apprend. Et il nous dit, il y a des choses que, quelque part, pour nos enfants, pour la descendance, l'ennemi voudrait garder fermé. Et que, quelque part, nous avons la clé pour ouvrir le futur. Que même Paul, quand il utilise des termes de prière dans Éphésiens 6, par exemple, ce n'est pas simplement beaucoup de choses que j'ai entendues et que vous avez certainement entendues. Paul est un rabbin, il ne va pas penser d'une manière simpliste comme ça. Il va beaucoup plus loin, il est rattaché à toute une dimension. Il n'est pas déconnecté de sa culture, de toutes ses études qu'il a faites durant sa vie, et où lui-même a combattu le Mashiach, où il s'est dit, mais le Messie et ceux qu'il croit, eux, sont un danger, donc il faut les détruire, ces gens. Et puis, il devient quand même un envoyé, un chaliar. Et donc, il y a quelque chose qui nous amène à voir l'une des choses les plus frappantes. C'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu de choisir ce qui est souvent plus petit et plus fragile. La différence entre l'aîné et le cadet. L'aîné, normalement, représente toujours celui sur qui on se repose. On dit toujours, dans les termes même modernes, juridiques, on dit le soutien de famille. C'est lui qui soutient la famille. Hein. Si le père est décédé, c'est lui qui est comme un remplaçant. Et c'est sur lui que, en règle générale, tous les espoirs reposent. Et là, Israël fait l'inverse, il dit non, c'est pas sur lui, c'est sur l'autre. Sur le plus petit, le plus fragile, mais dans quel but? C'est qu'il voit, malgré la cécité qui le frappe, il voit dans toute la dimension du fil prophétique de l'histoire, il voit ce que va devenir Manaché. Il voit que Manaché va s'arrêter là, et qu'il ne pourra pas agir dans un prolongement, et qu'il sera limité, et que quelque part, eh bien, ce n'est pas lui qui doit porter, mais quand il regarde Éphraïm, il voit dans Éphraïm quelque chose qui explose, dans le bon sens du terme. Et si on le reprend vraiment dans la construction de la pensée d'Israël, dans la pensée juive, dans une vraie pensée hébraïque, on va dire, c'est sur lui que Dieu veut construire sa maison, son nom, par rapport à tous les peuples. Et vous allez voir que quand on va rentrer maintenant dans les profondeurs, vous allez voir que même si je ne fais qu'effleurer le sujet, déjà on va toucher quelque chose de profond. Mais il veut construire son nom pour le faire habiter, pour qu'il y ait la connaissance de Dieu, pour que ce ne soit pas ce qu'on appelle un étranger, quelqu'un qui est complètement déconnecté et qui n'a plus rien à voir avec la réalité prophétique. Dieu veut faire habiter son éternité. Et regardez ce qui est extraordinaire. Et ça, ça m'a toujours frappé, mais c'est une règle divine. Lorsqu'on étudie vraiment, on se dit Dieu est créateur. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. L'éternité de l'éternité, n'en parlons pas. Rien ne peut contenir la dimension de Dieu. Rien. Aucune matière n'est capable de pouvoir enfermer la dimension de Dieu. Rien, aucun réceptacle. Même la création ne peut pas. Rien. Alors comment Dieu va-t-il s'y prendre, faire, pour qu'à un moment donné, il dise à Nochicharan, je veux habiter. Je suis habité et j'habite dans un être fragile qui s'appelle Éphraïm. Je vais habiter, j'y mets mon nom, j'y établis mon éternité et en même temps, il nous fait comprendre que ce n'est pas dans ce qui frappe les yeux de ce qui est fort potentiellement, etc., etc., tous les critères des hommes que Dieu va agir. Il va agir souvent dans l'insignifiant, mais il va le faire grandir. Du point de départ, le futur, les 1000 ans qui viennent, Éphraïm ne sera pas le petit Éphraïm qui était sous la main de Yaakov, devenu Israël. Éphraïm deviendra, waouh, quelque chose de conséquent. Et donc on peut dire avec une certitude que ce n'est pas ceux qui s'élèvent, ceux qui font valoir le plus que Dieu est avec eux en eux et qu'il agit par eux, que vraiment Dieu les habite. Mais que Dieu peut habiter le plus insignifiant des insignifiants, parce qu'il y a un futur. Voyez la différence, c'est que quand on commence à discerner à ce niveau-là, on va beaucoup plus loin. Et il va dans ce qui est petit. Regardez, rien que dans les choix constants. D'ailleurs, c'est une anomalie répétitive, constante dans la Bible. Dieu choisit Abel qui est le second et non Caïn. Et à chaque fois qu'une bénédiction est donnée, elle est toujours donnée, non pas à l'aîné, alors qu'il y a le droit d'aînesse. Waouh ! Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, nous voyons bien que si nous prenons l'exemple même de David, qui avait beaucoup de frères, aucun ne possédait le futur de Dieu. Aucun. Ils étaient beaux, ils étaient costauds, ils avaient du potentiel, ils avaient un métier, ils avaient tout pour répondre aux critères. D'ailleurs, même le prophète Shmuel et le père de David dit, mais ils sont valables ceux-là. Et Shmuel va répondre, mais ce n'est pas ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde exactement la circonférence du cœur par rapport à son intériorité, c'est-à-dire ce qu'il sera dans le futur, dans toute sa descendance. Et c'est pourquoi il va choisir le dernier des derniers, David. David. Personne n'aurait choisi David. Personne n'aurait choisi David. Mais Dieu a choisi David. Et quand on voit ce qu'est devenu David par rapport à nous aujourd'hui, que le Messie descend de lui, que le règne, la royauté de Yeshua, Mashiach, qui va bientôt se produire à Jérusalem, vient du plus petit d'une famille, moi ça me frappe. Alors que très souvent, le critère humain sera celui de Shmuel, on ne peut pas en vouloir. Il sera toujours de choisir ce qui paraît bien, ce qui va donner un peu du corps, de l'étoffe, du panache. Et tu choisis David. Et prends le petit. Ah oui, il y a bien le petit berger là-bas avec les moutons. Mais il n'est pas intéressant celui-là. il est mystique. Et Shmuel il dit, il le fait venir. Et quand il vient, il dit, c'est lui. Quoi, lui, qui va devenir un roi d'Israël, ça va pas. Lui, les bergers, le plus petit, celui qui est rêveur, celui qui plane, c'est lui qui va devenir un roi. Et vous imaginez. Marquez, aujourd'hui, on est prêt à choisir n'importe quoi en élection. Voilà. Parfois, on peut ne pas être surpris. Mais, voilà. Et lui, non, c'est lui. C'est lui. Et il ne manquera jamais d'un descendant sur le trône de David. Ça, c'est la gloire. Là, on plonge dans la gloire de Dieu parce qu'on se dit, mais, oui, c'est pas simplement un choix d'homme humain dans une situation d'urgence. C'est toute une maison qui se construit dans le futur, toute une dimension. Alors, quand on pense que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et pourtant, il fait habiter sa présence éternelle. Ce n'est pas une présence mortelle, Dieu. Ce n'est pas une présence passagère. Ce n'est pas une présence temporelle. Dieu n'est pas une présence temporelle. Celui qui a le concept d'un Dieu qui ne fait que passer, visiter, comme un touriste visite une ville, prend une photo pour immortaliser l'endroit, il est à côté de la plaque. La présence de Dieu ne peut pas être temporelle. Elle est éternelle. Elle est l'éternité même. Donc quand on parle de la présence de Dieu, on ne parle pas de la même dimension. Et ça veut dire que si on veut prolonger maintenant la compréhension, qui Dieu va choisir parmi toutes les nations de la terre? Le plus petit. Regardez la zone géographique d'Israël. C'est tout petit. C'est tout petit. Et des fois, il faut la loupe pour regarder et dans l'immensité de toutes les nations. États-Unis, France, machin. C'est... Et pourtant, regardez, c'est dans ce pays, dans cette terre, dans ce lieu que Dieu va habiter et que toute l'histoire de l'humanité va se dérouler et que l'actualité prophétique à laquelle nous assistons aujourd'hui se passe là-bas sous nos yeux, bien que nous verrons peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, nos générations futures, certainement, verront le règne du Mashiach. Ah, vous avez pensé à ça? Que quelque part, Dieu a choisi l'homme qui était Jacob, celui, entre guillemets, qui était non pas l'aîné non plus, mais il va choisir celui qui est le plus fuyard. Et il va faire reposer sur lui toute la dimension de l'existence d'un peuple, d'une nation, d'une âme qui va devenir Israël. Le Messie va naître dans le peuple, le pays, asservi par les Romains. Celui qui n'a pas de grandeur à l'époque. Celui qui a perdu vraiment, vraiment beaucoup de choses, puisque l'Empire romain qui était là, ce n'était pas quelque chose de sympa hein, pour Israël. Hein. Il faut bien le comprendre, hein, que c'était quelque chose de très douloureux et que l'espérance messianique consistait justement à s'en débarrasser. Où le Mashiach va-t-il naître? Dans l'étape de Bethléem. Qu'est-ce que c'est Bethléem quand on a été en Israël? Vous avez vu? C'est petit. C'est tout petit. Et Micha, hein, le prophète, va dire, « Et de toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira celui qui sera le plus grand et qui règnera et dont la royauté n'aura point de fin au jour de l'éternité. » Bah, bah, bah. La plus petite ville du monde. C'est là. Il aurait pu choisir New York, Paris, enfin Paris ne s'appelait pas Paris, mais bon, en prévoyant que Paris deviendrait Paris, la grande ville des Lumières, New York aurait été plus adéquate, avec les moyens américains, les moyens financiers, avec voilà, leur savoir-faire pragmatique. Tu aurais pu envisager que le Messie aille à New York, parce que dans le futur, New York allait être une très belle ville, avec les Manhattan et les gratte-ciel et les étages qui n'en finissent plus. Oui, aussi. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas habité la ville la plus puissante dans le futur ? Il choisit la ville qui va être la plus contestée, la plus en problème, et la plus en guerre, la plus en conflit de toi. Et Bethléem, la plus petite, d'entre les milieux de toi, sortira. Et c'est tout le sens de postérité de Zéra. C'est ce qui va sortir pour être, mais très loin dans le futur. Pas dans un futur proche, mais très loin dans le futur, jusqu'au règne du Messie. Et ce que Jacob est en train de voir et de nous amener à comprendre, c'est que Israël est dans la plupart des églises et dans la plupart des compréhensions humaines, même politiques ou géopolitiques, un problème. Parce que si tu comprends Israël que simplement comme étant un problème territorial lié à ce qui se passe, tu comprends rien au plan de Dieu. Mais pourtant, beaucoup n'ont que cette vue-là. Ah, les problèmes, ah, les difficultés, pourquoi les Juifs, ils sont là-bas, et pourquoi, et puis si, et puis ça, et ils ne sont pas justes, et gnagnagnagnagnagna. Ok, d'accord, tu as raison, sur tous les plans. Et à côté, tu te dis chrétien. Donc Dieu va régner chez Hamas. C'est Hamas qui va accueillir Mashiach, non ? Soyons logiques. Donc le Messie va devenir terroriste. On aura un Messie terroriste. Mais soyons logiques, on va pousser le bouchon quand même. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça fait du bien. Et je crois que derrière, nous ne pouvons pas avoir cette logique. Ceux qui ont ce mépris de l'Eretz, de la terre d'Israël qui a été donnée, de ce lieu où Dieu a dit, je veux habiter. C'est là que réside. C'est là que le trône de David a été établi. C'est là que mon nom est pour l'éternité. Si tu le comprends seulement comme les gens le comprennent aujourd'hui, d'un point de vue politique, géopolitique, tu t'embourbes. Et que tu ne regardes qu'à la situation humaine, mais que tu n'as pas la vision du futur de Dieu avec ce pays, ce peuple, cette âme, avec ces territoires, à côté de la plaque. Tu ne peux pas comprendre le règne de Dieu, tu ne peux même pas attendre l'avènement du règne de Dieu dans le Messie sans ça. C'est clair. Et pourtant, cette résurrection de l'État d'Israël qui crée problème, apparemment, et qu'on aimerait bien aujourd'hui évincer, éradiquer de la carte, rendre inexistant, ce serait tellement mieux pour le monde entier. Tous les problèmes du monde économique seraient réglés par la destruction de 500 000 km². Ah, j'ai appris quelque chose, vous savez. Dans mes études, j'ai appris que Israël, si on l'élimine, serait la bénédiction des nations du fait qu'il n'y aurait plus de juifs. Et le monde irait mieux, il n'y aurait plus de conflits nulle part. Non, mais c'est vrai. Non, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de problèmes. L'islam meurt. L'islam va mourir. Non, l'islam ne va pas continuer sa conquête. Non, ils vont s'arrêter. Boko Haram va arrêter. Daesh et machin. Non, ils vont tous arrêter. Même Bachar el-Assad, il va dire, ah mais non, excusez-moi, voilà, Israël c'est fini, voilà, on peut retrouver la paix entre nous. Franchement. Vous pensez qu'on peut aller dans cette logique? Et tous les chrétiens qui pensent, et il faut le dire, tous les chrétiens qui pensent que Israël, Jérusalem, n'est pas important dans la prière, n'est pas important dans l'étude prophétique, n'a pas sa place dans la prédication, à côté de la grande puissance du prédicateur, eh bien, il rate. Et c'est ce que Jacob veut prévenir. Tu peux rater ton futur. Et regardez, aujourd'hui, quand on regarde, il y a des futurs ratés, pas seulement dans les vies personnelles, mais dans les familles. Il y a des vies ratées dans les vies d'assemblée. Parce que rien n'est fait pour être dans un prolongement par rapport à la présence éternelle de Dieu. Parce que Dieu n'habite plus, parce que Dieu est retiré. Alors, bien sûr, les choses continuent. La vie continue. On reçoit en fonction des lois physiques, matérielles, en fonction des lois de la temporalité. Tout continue. Et Yeshua le traduit à sa manière, bien entendu, en disant que on continuait de marier les enfants et les enfants des enfants. On continuait à manger, à boire, à danser, à faire toutes sortes de choses, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où tout s'arrête. Et c'est là la vigilance à avoir. Alors, si on veut entrer dans le cœur, ce tout petit pays, Israël, ce n'est pas qu'il faut l'adorer, ce n'est pas qu'il faut le mettre sur un piédestal, ce n'est pas de faire d'Israël une idolâtrie, mais c'est le lieu de l'appartenance de l'accomplissement du plan de Dieu. Et c'est ça que nous devons. Et quand on va justement dans un certain nombre de choses, eh bien, quelque part, on peut dire, après tous ces millénaires, quelle est la plus grande preuve de l'existence de Dieu, hormis les bases scientifiques qu'on peut démontrer d'ailleurs, mais qui ne prouve pas obligatoirement dans le concret, dans notre vie à nous. On peut avoir la preuve de l'existence d'un créateur. On peut admettre une existence divine. On peut admettre un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire que Dieu existe pour nous, en nous, avec nous. Et que Dieu est présent parmi nous. Ça ne veut pas dire. Alors, quelle est la plus grande preuve de cette existence-là? Israël. C'est Israël. Un peuple qui aurait dû mourir il y a longtemps, il y a 2000 ans. Qui n'aurait jamais dû renaître. Qui n'aurait jamais dû réexister, si je puis dire. Et pourtant, on voit qu'aujourd'hui, des choses sont en train de se développer d'une manière invraisemblable et qu'Israël est non seulement au cœur de l'actualité, mais nous voyons à quel point le monde juif, croyant en Yeshua, en Jésus, ou pas, attend le règne du Messie. C'est quand même incroyable. Des millénaires après, on est là devant le mur, comme je le disais à Shabbat. J'y reviendrai là-dessus parce que ça m'a frappé quand j'ai fait mon étude. J'ai dit, mais quel est le sens d'aller mettre le nez devant un mur et de parler à Dieu? Mais oui, c'est comme si le mur, c'est ce qu'il représente. On est bien conscient de ça en tant que juif. Mais de voir tellement de monde se rassembler dans ce lieu-là, de voir tous les touristes chrétiens, c'est l'incontournable des voyages organisés. Hein? C'est tout à fait vrai. Celui qui fait un voyage organisé et qui ne va pas au mur, à l'esplanade du temple, éventuellement si c'est possible, ou en tout cas dans cet endroit-là où était le temple, tout son voyage n'a pas de sens. Mais on voit que toutes les nations même viennent prier devant ce mur. Prient dans cet endroit. Alors, il y en a qui prient peut-être pour guérir l'affamé, les amés. D'accord, mais quand tu as prié 6 heures, tu ne vas pas prier encore pour toi. Mais c'est ça la réalité de la prière juive. Regardez-les prier là-bas. Ils ne sont pas là 10 minutes, un quart d'heure. Ils sont là 24 heures. C'est un mur qui a 24 heures. Une activité de prière de 24 heures. Et ils appellent quoi? Quel est l'intérêt pour eux de prier là? Que ceux qui sont en haut, qui leur balancent des pierres, meurent. Vous trouvez que ça a un sens? Non. Ils sont là parce qu'ils disent, le fils de David va venir. Nous l'attendons, il va venir, nous le préparons. Et je crois que c'est l'une des choses qui échappe beaucoup. Alors, si on veut approfondir maintenant, par rapport à toute cette histoire, ce que je voulais dire maintenant, dans tout ce qui a été interrompu entre Yosef et Yaakov devenu Israël, c'est une interruption très importante dans une vie, une absence de père. Et oui, parce qu'il a été esclave, Yosef. Et Yaakov, Israël, a été privé d'un fils qu'il aimait, de quelqu'un qui, avec qui il se serait vraiment bien entendu, comme on dit, où il n'y aurait pas eu apparemment de conflit. Et il y a tout un pan de l'histoire, quand même 17 ans, voire 24 selon les évaluations. Mais une chose est certaine, 17 ans de sa vie, 24 ans de sa vie, c'est pas rien. Ça représente...
C'est énorme.
On a changé. Revoyez quelqu'un 10 ans plus tard, vous, votre histoire et votre regard s'est arrêté il y a 10 ans. Et quand vous le voyez, vous ne comprenez plus rien. Parce qu'il y a changement. Parce qu'il y a changement. Ce n'est pas seulement un changement physique. Tu as vieilli, tu n'as plus de cheveux comme moi. Ou tu as grossi, tu es tout blanc, tu es moins beau qu'avant. Et tu t'es laissé aller. Ou alors madame, elle a fait trop bons couscous ou un peu trop gras. Trop de merguez. Et toi, tu as l'impression que c'est le même qu'il y a 10 ans. Puis quand tu parles avec lui, tu trouves plein de choses étranges, changées, différentes. Et tu dis, c'est plus le même. C'est pas le même bonhomme, là. Là, il est devenu bizarre, il est aigri, il a ça. Et tout à coup, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est interrompu, que c'est plus le même que tu as connu. Alors vous imaginez cette retrouvaille du père avec Yosef, qui tout à coup recroche leur histoire, leur destinée, leur accomplissement. Mais Yosef est un Égyptien, apparemment. C'est quelqu'un qui est numéro un dans le royaume de l'Égypte. C'est quelqu'un qui a vécu en Égypte, qui ne connaît rien par rapport à tout ce que les autres ont vécu durant ces années-là et de la manière dont le père a vécu. Et il réalise tout à coup que là, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher. Et nous voyons bien que Dieu a éduqué le cœur de Yosef durant toutes ces années parce que, comme je l'ai dit à Shabbat, Dieu fut avec lui. Et qu'est-ce que ça veut dire, fut avec lui? Et donc, quand il se retrouve, ce n'est pas seulement de la joie, mais quel est le rôle que Yaakov, Israël, a eu vraiment en regret au fond de lui, mis à part la relation affective avec son fils, ça a été de ne pas pouvoir enseigner son cœur, de ne pas pouvoir lui donner l'enseignement des pères, de lui transmettre cette profondeur de l'amour et du plan de Dieu pour continuer. Et ce que l'on peut dire, c'est que quand les pères s'arrêtent dans leur rôle avec leurs fils deviennent des Égyptiens. Si on ne met pas la présence de Dieu, elle est remplacée. De toute façon, un cœur cherche à se remplir. Donc il se remplit de ce qu'on lui donne. Et c'est obligatoire. Si, qu'on prenne même dans une assemblée des pasteurs, des docteurs, de tout ce que vous voulez, ne jouent plus leur rôle à ce niveau-là de l'enseignement du cœur, de la formation du cœur, eh bien, ça va faire place à plein d'autres doctrine, à plein d'autres pratiques, à plein d'autres choses qui deviendront des étrangères. Mais quand on joue son rôle de père, alors on entre dans l'enseignement du cœur, la formation du cœur, et en même temps on transmet. Et on remplit son cœur du plan de Dieu. Pas d'une espérance futile, on remplit le futur de l'accomplissement. Parce qu'on trace, sans le savoir, un itinéraire de vie. Et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et on n'est plus en train de dire dans la boule de cristal, Seigneur, parle-moi, ou je vais aller voir les grands prophètes là-bas, ou Seigneur, dis-moi, allez, quel est mon avenir, quel est mon appel, quel est mon ministère, ou quel est le niveau de ma puissance. Et après, t'entends plus parler. Ça, c'est pas l'éducation du cœur. C'est de vouloir remplir parce qu'il y a une absence. L'absence, on peut le dire comme ça, de la présence d'un père, qui n'est pas seulement un père physique, affectif, paternaliste, qui fait tous les caprices, qui vient te prendre la température toutes les 10 secondes, qui vient, qui est là, oh, c'est beau, c'est merveilleux, oh, non, ça, cette image-là, il faut l'enlever. C'est celle qui forme le cœur dans le plan de Dieu. Celle qui va former le futur Messie dans les temps qui viennent, mais aussi le chemin et qui va amener les hommes et les femmes à devenir les 12 tribus. J'espère qu'on a le temps d'y toucher. Et donc, un père, il établit les bases, les fondements de la maison de Dieu. Oui, on dit aussi la maison du Père. Dans la maison de mon Père, disait Machiach, je vois, je suis avec lui. Tout ce que je vous ai dit est résumé dans tous les versets que vous pouvez lire du Messie. Et qu'il ne fait rien sans que le Père lui ait montré. Qu'aucun lieu qu'il a traversé ou marché n'a été choisi par le hasard. Qu'il a accepté autant les 10 ans de vécu en Égypte, autant il a grandi et que même les grands maîtres, les rabbinim et tout Israël étaient étonnés de la connaissance de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant avait été enseigné, que ce n'était pas simplement une divinité incarnée comme ça, arrivée à maturité, ayant toute la connaissance et en mettant plein la vue à tout le monde. Il y en a qui s'imaginent ça, mais c'est archi faux. Il a appris et il a été dans Erev Shabbat. Il a vécu, il a connu, et il a amené la connaissance de Dieu. Et tout le but de sa présence, c'était d'amener cette dimension. Et lui, qui a été l'un des plus modestes, ça n'a pas été à l'époque, et on peut lire aujourd'hui, je veux dire, tous les écrits vous diront que Yeshua n'était certainement pas la plus grande figure des maîtres de l'époque. Personne ne vous dira ça. Par contre, tout le monde est étonné que ce Yeshua, si modeste, galiléen de surcroît, qui n'était pas galiléen de base, a autant influencé les siècles, les générations et les hommes et a bouleversé la terre. Comment celui qui n'était même pas le plus grand prédicateur d'Israël, le plus grand maître, puisqu'on a choisi dans notre judaïsme Hillel, et pas Yeshua, et qu'une partie minime par rapport à la masse hein, a choisi Yeshua Mashiach. Et là, il y a un étonnement. Comment celui qui jamais n'aurait dû avoir autant d'impact a eu l'impact? Et quand on voit tout ça, on est étonné, car toutes les nations, et aujourd'hui, ça représente en pourcentage énorme, phénoménal. Je ne sais pas si je peux le formuler comme ça, mais pour aller de manière très rapide, on va dire, calculer le nombre de pourcentages chrétiens dans le monde. Toutes dénominations confondues, institutions, etc. Je ne parle pas de ceux qui se disent plus que les autres. Parce que là aussi, des fois, il faut s'y repérer. Il y a les plus, les moins, les tempérés. C'est où t'es bouillant, où t'es pas bouillant, c'est tout, point. Et donc, quand on voit ça, la prophétie d'Éphraïm est accomplie là. Hein. Car qui est Éphraïm? Allez, je vais rentrer dans la gentillesse avec vous. Qui c'est Éphraïm?
Les nations.
C'est toutes les nations, et vous savez que c'est aussi la France. Que ça concerne l'Europe. Et c'est pour ça que l'actualité, elle est magistrale. Éphraïm revient dans la maison d'Israël. Ils ne sont pas restés étrangers parce que de Yosef, et de même que ceux qui ont perdu les racines juives de la foi, de l'identité d'Israël, de l'identité du Messie, je vais beaucoup plus loin, de l'identité du judaïsme qui est la base, qui est le père, qui n'enseigne plus ses enfants dans le monde, parce que Éphraïm s'est éloigné et on l'a ôté. Alors il y a une interruption entre Israël et les nations et les églises et les pasteurs et les doctrines. Et la souffrance, c'est que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que les chrétiens qui avaient rejeté tout ça, ce père, ce peuple, ces coutumes juives, ce judaïsme, ce dont on parlera demain soir, le Shabbat, pour le remplacer, lui donner une autre dimension, un autre nom, un autre jour. Ok. Enlever les fêtes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se produit? C'est que tout le monde revient à ça. Qu'est-ce qui peut comprendre ça? Qui peut comprendre qu'on revient à ce petit peuple alors que le plus grand pays chrétien, c'est les États-Unis? Il y a à réfléchir. Alors on va un peu plus loin, ça ne vous fatigue pas ou ça va? Ça va? Vous tenez le choc? Il faut construire la maison du Père avant toute relation affective, c'est ça que la bénédiction transmet, elle ne se base pas sur l'émotionnel, sur l'affectivité, sur simplement le feeling. Elle se base sur la réalité de l'accomplissement du futur. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup veulent une relation affective parce qu'il manque d'un père. Et quand on regarde tous les troubles émotionnels, psychologiques, liés à l'identité, c'est la recherche d'un père par rapport à l'absence d'un père, pour les hommes très souvent, et également les grandes souffrances qui se trouvent parmi les jeunes filles, les enfants, les dames, qui ont déréglé, et quand ils se marient, c'est des drames. C'est des drames. Leur histoire, la rencontre de leur histoire devient des drames. Parce que la maison du Père n'est pas construite. Et si je voulais aller beaucoup plus loin dans la construction, et même du couple, La relation du couple, et qu'on entre dans la profondeur de la dimension profonde spirituelle de tout ce qui construit la maison du Père, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas l'affectif. L'affectif, aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Aujourd'hui je t'aime beaucoup parce que tu es sympa, tu me fais plaisir. Demain je vais te détester parce que tu dis du mal de moi, parce que tu es comme ci, comme ça, et tu es changeant. Et plus tu changes d'être sur lequel tu reportes ton affection, et plus la blessure grandit. Vous savez, quand j'ai fait la psychologie, je peux vous le dire, ça part d'un petit angle et ça devient magistral. Et chaque fois qu'il y a une recherche identitaire dans le père, on recherche un père par rapport à l'absence, qui était ou l'affection, ou la sécurité. Pourtant, quand des fois des personnes ont un papa, eh bien, le papa, il n'est pas toujours tendre. Et il le fuit, celui-là. Vous y comprenez quelque chose? C'est quand même très paradoxal. Vous avez des pères alcooliques, des pères tabasseurs. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça ne fait rien avec les nouveaux décos, on met tout. Vous avez les pères violents, méprisants, absents, qui se donnent que dans leur travail, qui pensent qu'au matériel. Et la famille, c'est secondaire, c'est un port d'attache, un lieu pour dormir. Voilà, c'est la maison dortoir. C'est pas un lieu de vie. La construction dans la famille des dieux, c'est quelque chose où il y a la vie, il y a une vie. Et c'est vrai que personne n'a appris à être père. On apprend. On fait beaucoup de bêtises avant de l'être. J'en sais quelque chose. J'en ai eu 4. Et 4, ce n'est pas suffisant encore pour apprendre tout. Et on voit bien qu'à un moment donné, beaucoup de choses nous échappent. Mais quand on est dans le Mashiach, bien, il y a quelque chose qui se reconstruit. Et on ne doit pas la reconstruire sur la maison du monde, sur les principes de la vie des autres, de la société qui est là, qui influence, qui voudrait nous dire, voilà, oui, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, oula, il ne faut pas être trop, oula, 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 ou il faut vous détendre, ou il faut changer de femme, oh, ça ne fait pas de mal d'aller un peu à droite et à gauche, de toute façon, tu reviendras, et puis, gna gna, puis gna gna, puis gna gna, vis comme un païen, tu viens à Dieu, de toute façon, il va te pardonner. Tu as juste à lui dire, pardon Seigneur, tu sais, je regrette même si ce n'est pas vrai, mais bon, je regrette quand même de temps en temps. Je voudrais simplement ne pas être dans la conséquence de mon mal, tu vois. Merci, amen, alléluia, tu vas vers pasteur, pasteur béni, prie, bénis ton péché, et au revoir, bye bye, à bientôt. Moi, je dis, ça c'est du n'importe quoi. Vous me connaissez? Si ta vie, elle n'est pas en règle, moi, tu ne vas pas comme ça là-haut. Tu ne peux pas aborder la sainteté de Dieu n'importe comment, son nom. Il ne va pas venir dans la souillure, il la quitte. Dieu quitte la souillure. Donc, des lieux de sainteté. Et qu'est-ce qui produit la sainteté dans une maison? C'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Il n'y a pas d'autre jour dans la semaine qui sanctifie le nom de Dieu. C'est le seul jour où Dieu est totalement présent. C'est le seul jour où ce jour est appelé saint. C'est le seul jour où la prière a toute sa place et tout le reste n'a pas sa place. C'est un seul jour. Et on voit bien que construire dans la maison de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Il y a tellement des choses. Alors, ces enfants vont recevoir la bénédiction, et regardez, ce n'est pas la bénédiction seulement de matériel. Tu vas avoir beaucoup des chameaux, tu auras beaucoup de femmes, tu auras beaucoup d'argent, et tu vas devenir très puissant, très riche. Tu vas devenir... Non, non, c'est la bénédiction, regardez, discernez bien dans ce que Yaakov fait, c'est la bénédiction de la rédemption. C'est la bénédiction par rapport au Mashiach. Et donc, nous pouvons voir que là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, quand nous disons dans nos prières de Shabbat, des rêves Shabbat, « Soyez comme Ephraïm », qu'est-ce qu'on dit en réalité? Faites le choix. Voilà. Mais là, je vous donne l'essence de la prière juive. Ce n'est pas seulement la formulation. La formulation, ça n'amène jamais très loin. La récitation non plus. Le fait de répéter bêtement quelque chose ne donne pas la vie et ne communique pas la vie. Mais quand on comprend le sens, l'émotion, le cœur, la pensée va porter les mots d'une autre manière dans le cœur de l'enfant et pas lui donner simplement un truc religieux. Il y a des fois des parents qui insistent, il faut que tu pries, oh, prie dans ta chambre, tu vas lire, tel, puis on les oblige. Et puis, il en sort quoi quand ils ont 18 ans? Ils se barrent. Ils font toutes les bêtises possibles imaginables. Ou alors, ils deviennent agressifs avec les parents. Combien il y en a comme ça? Parce que, voilà, on veut maintenir quelque chose. Ok? Mais la profondeur, à ce niveau-là, va beaucoup plus loin parce que nous disons, faites le choix de ce qui est éternel et non de ce qui disparaît. Faites le choix de la qualité et non de la quantité. Ce qui veut dire, apprends à faire et à avoir confiance en Dieu en toutes circonstances. Ça, c'est le sens profond de notre prière juive. C'est d'apprendre à faire un choix qui détermine un futur. Un futur est toujours lié à un choix. Il n'est jamais lié à du hasard, à de la fatalité. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours un choix derrière quelque chose. Derrière un événement, derrière chaque chose, il y a un choix qui a été fait. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on l'assume ou pas, c'est une réalité. Et ce qui se produit très souvent, c'est que beaucoup n'assument pas leur choix. Alors, on devient accusateur, on accuse les autres. Et là, on entre dans un autre processus de lien psychologique, affectif, parce que tout est modifié aussi dans la relation ensuite. On n'est plus dans quelque chose de sain, mais dans quelque chose qui devient pervers. Et ça fait ses dégâts. Alors, quand on va plus loin, c'est Yosef devient le modèle. Quand nous prions, regarde, ces deux enfants qui n'auraient jamais dû avoir ces bénédictions, ces brachot, à cause de Yosef, de sa conduite et du fait qu'il a dit « C'est Dieu qui m'a amené là, devant vous, avant vous, et c'est Dieu qui m'a précédé dans ce lieu. Vous ne m'avez pas vendu, vous n'avez rien fait de mal. » C'est Dieu qui a voulu, qui a tout fait à l'avance. Lui, il a tout compris. Mais les choix dans la vie de Yosef sont cruciaux. Pourtant, ça va lui coûter cher. Peu de gens aujourd'hui, peu de chrétiens sont prêts à payer le prix de la sainteté. Peu. Et malheureusement, ça fait des faibles. Faibles en prière, même si on crie fort. Mais il y a une intensité faible. Parce que très vite vaincu, très vite capitule, très vite se laisse prendre, happer, et on n'a plus de combattants. Et on ne doit pas simplement combattre contre des trucs qui ne font que bouger, passer comme ça, jour et nuit. Mais il y a le combat de la sainteté, de la maison de Dieu, de la présence de Dieu en soi. Et ce qui donne une autre dimension. Alors, Yosef devient l'élément clé, parce que Yosef refuse d'aller coucher avec les femmes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent en concubinage. Je ne juge pas, mais je dis que voilà, on va dans les églises, on fait toutes sortes de choses, même certains participent soi-disant au repas du Seigneur. Ok, vont à droite et à gauche, masque, cache, mal, hein. Et en même temps, ils sont remplis de l'esprit, ils sont croyants. Moi, j'y comprends rien. Et peut-être que je réfléchis trop, que j'ai peut-être d'autres principes de vie, d'existence, mais je me dis, il y a un dysfonctionnement. Et de revenir justement à l'attitude de Yosef, qui n'a jamais trahi, mais Dieu l'a élevé. Il a souffert pour être élevé. Peu de gens veulent souffrir pour être élevés. Ils veulent devenir tout de suite reconnus et en fait pensent être guéris par le fait qu'ils vont être vite aimés, appréciés par des gens qui, 10 ans, 5 ans, 20 ans plus tard, les lapideront. Et je peux vous dire, j'en ai vu défiler des ministères. Et je dis que souvent, les enfants ne sont pas préparés ni à devenir père, ni même à pouvoir être père. Et que derrière, eh bien, les dégâts vont se manifester. Donc quand nous faisons cette prière, nous assurons la dimension spirituelle de la vie de l'homme, dans la vie de la famille, dans la sainteté du Shabbat, dans la prolongation de la bénédiction de Dieu. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la véritable réussite, elle ne va pas dépendre de sa propre force, capacité, études, royales, machin. D'ailleurs, on le voit bien. Même ceux qui, apparemment, ont très bien réussi, et dans la finance, et dans d'autres domaines, se sont suicidés. Il y a beaucoup de suicides dans les milieux riches. Oui. Ils accèdent le temps où ils ont pu amasser, de manière illégale même, parfois, ou tortueuse. Ils ont quelques années de sursis et de bonheur que tout le monde envie. Et il y en a qui deviennent tordus comme ça. Et un jour, bam, une crise boursière, problème de ça, un Madoff, paf, l'autre paf, l'autre paf, et il descend tout en bas, se suicide. C'est un choix de vie. Tu penses que peut-être tu vas durer longtemps, et tu penses que l'argent va te préserver, va te garder, que quelque part ta sécurité est fondée, et tout part. Et il n'y a qu'à voir, le fonctionnement. Combien où ont été assassinés? Ça aussi, les règlements de compte. Malheureusement, on n'y pense pas suffisamment. Alors, la véritable réussite, elle est dans sa force, mais dans la continuité de sa relation avec Dieu. Alors, il faut arrêter. Donc, Éphraïm et Manaché sont âmes, c'est-à-dire peuple. Alors, pourquoi se soyez comme Éphraïm? C'est drôle, hein? Pas soyez comme Yosef, soyez comme Éphraïm, mais dans l'exemple du père. Et là, c'est Rashi qui va nous donner la clé. Et il nous donne la clé dans Bereshit 37. Je vais le dire en hébreu. Elé Toldot Yaakov Yosef. Seul Yosef est le véritable héritier. Et pourquoi? Parce qu'il a toujours marché en confiance en Dieu, mais surtout, il n'a jamais brisé ni interrompu sa relation avec Dieu, car ce qui a amené l'événement que nous avons lu, partagé, est dû à toute l'histoire, l'itinéraire de la vie de Yosef dans ses choix. Et il nous est très aisé, très facile, pour donner une conclusion, d'essayer d'imaginer quel aurait été le futur si Yosef n'avait pas fait les choix qu'il avait faits. Et là, vous avez une réponse. Autant dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle, à tous les niveaux, parce qu'elle vous montre clairement qu'à un moment donné, oui, peut-être qu'on se fait passer pour des arriérés, peut-être qu'on est ceci ou cela, peut-être qu'on est des nigauds, hein, qu'on n'est pas suffisamment intelligent, peut-être ringard, vieillot, qu'on n'est pas moderne dans la nouvelle église. Ok. Mais il nous faut comprendre que si Yosef n'était pas resté fidèle à ce qu'il a reçu dès l'enfance, non seulement il aurait été perdu pour le futur, mais il n'y aurait pas eu de futur. Et Dieu aurait dû reconstruire quelque chose avec d'autres hommes, dans d'autres circonstances, et même par rapport à toutes les nations, car toutes les nations étaient comprises dans l'histoire de Yosef, qui est extraordinaire. L'importance d'instruire l'enfant dans les voies de Dieu, de bénir l'enfant, pour ouvrir son futur et de le connecter le plus rapidement possible à Dieu, parce qu'il comprendra le sens profond de la bénédiction qui suivra. Donc ma conclusion maintenant, c'est de vous dire tout simplement, Yosef aurait pu devenir un Égyptien, même un très grand Égyptien, il a révélé ses capacités. Il a révélé qu'il avait un potentiel énorme, mais il n'est pas resté Égyptien. Ce qui est étonnant. Il aurait pu, par blessure, devenir égyptien. Par blessure. Parce qu'il aurait pu évoquer la trahison de ses frères, le mépris, le manque d'amour. Vous savez, 10 frères contre soi, à ce moment-là, qui veulent sa mort, il n'y en a qu'un qui se lève pour lui sauver la vie. Je ne sais pas comment on l'aurait vécu. Hein, vous connaissez un peu ça, des fois dans les jeunes du voyage, quand il y a des disputes familiales, oui, ça chauffe. Hein. Mais vous imaginez, tu en as 10 qui veulent ta mort, un qui dit non, on va le vendre comme esclave, et tout le futur est changé. Qui arrive aujourd'hui sur le plan psychologique, affectif, émotionnel, arrive à accepter le fait de ne pas être aimé. Dans ce qu'il fait, c'est la cause numéro un de la dépression. Autrement dit, quand on dit en hébreu, c'est l'appel de la mort, c'est la présence de la tristesse qui est l'appel de la mort, qui conduit à la mort. On est mort dedans. Ça, c'est l'hébreu. On est mort dedans. On n'a plus de vie. On ne vit plus. On a arrêté sa vie. Ça veut dire qu'on a arrêté un futur parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on est dans quelque chose qui s'est arrêté. Beaucoup de gens arrêtent, alors que Dieu nous demande justement, et c'était ça la force de Yosef, c'est que son émouna, sa foi, hein, sa confiance dans le futur de Dieu, dans ce qu'il a vu, une petite vision. Et là, il n'a pas vu... Et la gloire de Dieu, et les anges, et la boule de cristal, et tous les apôtres et tous les prophètes, et tout le monde qui vient prier pour lui parce qu'il est triste, et tout le monde qui est là en train de lui dire « je vais te téléphoner cette semaine, écoute, comment tu vas ?» et machin. Ok, ok, ok. Tout a son importance, mais nous voyons quelqu'un qui a su rester fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et sa fidélité fait que la bénédiction qui vient sur les nations, je ne sais pas si je toucherai la deuxième partie sur Éphraïm, qu'est-ce que c'est Éphraïm véritablement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment d'actualité. Hein. La tribu d'Éphraïm qui revient, les 12 tribus qui se réunifient pour accueillir le Mashiach. Et comme je l'ai dit, Éphraïm a été la base sous Jéroboam, qui était de la tribu d'Éphraïm, qui a été la base du schisme d'Israël, de la dispersion des tribus. Non, extraordinaire. On est dans l'extraordinaire. Il nous faut une école. Moi, j'arrive. Je pleure à la maison. Parce que j'ai dit, maintenant, il y a trop de choses. Mais Paul, il me dit, il faut raccourcir les choses. Oui, alors on peut les prolonger. Ce qui est extraordinaire, bien aimé, c'est que vous gardiez l'enseignement du cœur. Que le cœur se forme dans le cœur de Dieu. Pas un cœur de religieux, pas un cœur pétillant un jour par semaine, deux jours par semaine, ou trois heures par semaine, mais quelque chose qui dit, voilà, j'appartiens à cette tribu-là dans Paris. Je suis la tribu messianique. C'est beau ça. Et il y en a qui vivent comme s'ils n'étaient pas messianiques. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un choix. Dieu met un choix. Tu es Ménaché ou tu es Éphraïm. Tu ne peux pas être un mélangé. Tu ne peux pas être un mélangé. Tu dois être un démélangé. Et ça, c'est la pureté. Le démélangé. Être démélangé, pardon, c'est être dans la pureté la plus totale, parce que tu enlèves, et tu clarifies, et tu te clarifies, mais tu es clair dans tes positions, tu n'es pas dans l'ambiguïté. Peu importe ce qu'on pense de nous, peu importe ce qu'on dit, peu importe la manière dont on est perçu, on ne marche pas dans leur obéissance à eux, nous marchons dans l'obéissance à Yeshua, Mashiach, dans ce qu'il a donné là. Nous marchons dans la révélation du Messie, dans la lumière du Mashiach. Je ne marche pas dans la patristique. Je ne suis pas enseigné par les pères de l'Église. Je suis enseigné par mes rabbanim. J'ai reçu l'enseignement d'Israël. J'ai eu la révélation du Mashiach. Ça a suffisamment bouleversé mes concepts. Mais ça a été un choix. Quand mon oncle m'a dit « t'es mort », ben t'es mort, t'es mort. T'as plus de vie de famille, c'est fini. Et quelque part, on pense qu'on peut être dans plusieurs tendances. Je dis non, clarifiez-vous dans l'amour. Mais soyez clair dans ce que vous allez tracer pour Dieu demain. Le mélange vous amènera toujours à voir quelque chose qui va devenir... comme de la lie, là, très lourd, ça alourdit.